Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer ce dernier cours qui, cette fois-ci, portera non plus sur l'analyse du système de nombres en soi, mais sur les liens qu'entretient ce système de représentation mentale des nombres avec un autre grand système de représentation mentale, celui de l'espace. Et je voudrais simplement commencer en rappelant que dans le domaine des mathématiques, la métaphore des nombres et de l'espace a joué un rôle absolument essentiel et continue de jouer un rôle absolument essentiel dans le développement de concepts mathématiques. Cette métaphore a été une richesse absolument exceptionnelle et on ne peut que résumer extrêmement brièvement ici certaines des contributions depuis l'Antiquité. La première de ces contributions, c'est l'idée que le nombre peut mesurer, et mesurer en particulier des longueurs, ce qui conduit à la géométrie, l'idée qu'on peut appliquer le concept de nombre à l'espace pour mesurer des longueurs, des surfaces, calculer leurs rapports. L'idée ensuite pythagoricienne, qui émerge assez rapidement, que les longueurs sont des nombres, que l'on peut voir le nombre lui-même comme une étendue spatiale, ou que l'ensemble des nombres forme comme une ligne numérique. Et nous allons voir que cette métaphore d'une ligne numérique est littéralement inscrite, en quelque sorte, dans notre cerveau. Et puis, d'autres avancées très importantes. On attribue à Hippas de Métaponte cette découverte si l'on dit que les nombres entiers mesurent les grandeurs, eh bien, il y a certaines grandeurs qui ne sont pas mesurables ni par des nombres entiers, ni par des fractions rationnelles, par exemple la diagonale du carré, à une longueur qui est irrationnelle, on sait bien entendu c'est racine de 2, et cette découverte, donc si l'on poursuit la métaphore entre le nombre et l'espace, on tombe sur des grandeurs qui sont des nombres irrationnels, qui correspondraient, si c'était des nombres, à des nombres irrationnels. Ça conduit bien entendu à la notion de droite réelle, qui est un concept absolument central en mathématiques. Un autre exemple que l'on peut donner, c'est celui des coordonnées cartésiennes. René Descartes invente l'idée que l'on peut repérer des points dans l'espace par leurs coordonnées, suivant plusieurs axes, et cela conduit à la géométrie algébrique, à la possibilité de démontrer des théorèmes de géométrie par le biais des outils de l'algèbre et de l'arithmétique. On pourrait continuer à l'infini, il y a énormément de domaines dans lesquels cette métaphore des nombres et de l'espace a joué un rôle fondamental, par exemple l'idée que les nombres complexes mesurent des points d'un plan, le plan complexe. D'autres encore, il semblerait que la démonstration récente du théorème du Fermat fasse appel à un très haut niveau, à une métaphore de l'algèbre et de l'espace. Alors, il est tentant pour le psychologue d'essayer de remonter aux racines de cette métaphore nombre-espace, et au fil des cours précédents, nous avions vu un certain nombre d'indices que les nombres appartiennent, de manière générale, à un système dorsal, pariétal, qui intervient dans le traitement de l'espace dans le cerveau. Je vous avais montré cette carte, obtenue par IRM fonctionnel chez l'homme, où l'on voit que les activations cérébrales au cours du calcul, et plus généralement ce système qui est en rouge ici, qui est impliqué dans la représentation cérébrale des nombres, dès que nous réfléchissons à la quantité qui est représentée par un nombre, eh bien ce système s'inscrit dans une carte du lobe pariétal qui comprend d'autres grands systèmes impliqués dans la mise en forme de la main pour attraper un objet, donc les paramètres spatiaux d'orientation et de taille de la main qui vont nous permettre d'attraper des objets, de manière générale les mouvements dirigés de la main dans l'espace vers certaines positions, toutes sortes de tâches visuo-spatiales qui impliquent de se représenter une position dans l'espace, et en particulier les mouvements des yeux, les saccades visuelles, mais aussi les mouvements de l'attention visuelle. Et alors nous avions vu que chez le singe macaque existe une carte assez similaire, qu'on peut trouver des neurones des nombres qui sont inscrits dans une région qui semble être homologue de celle que l'on trouve chez l'homme, que ces neurones sont littéralement inscrits dans une aire qui s'appelle l'aire VIP, ventral intrapariétal, qui est connue pour sa représentation de l'espace et en particulier du mouvement dans l'espace dirigé vers le sujet. Et je vous avais parlé également de ce travail de Tuduchiuk et Andreas Nieder, qui enregistrent donc des neurones qui répondent au nombre chez l'animal, mais qui, sur la même électrode, trouvent également d'autres neurones qui répondent à la longueur de barre dont l'animal doit essayer de retenir la taille. Donc, sur la même électrode, côte à côte, on va trouver des neurones qui s'intéressent à la longueur, d'autres neurones qui s'intéressent au nombre, et ça suggère évidemment qu'il y a un lien extrêmement intime dans le cerveau, aussi bien le cerveau de l'homme que celui de l'animal, entre le nombre et l'espace. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il existe toute une psychologie des liens entre le nombre et l'espace. C'est un développement assez récent, et il y a des travaux extrêmement récents dont je vous parlerai aujourd'hui, certains pas encore publiés, du laboratoire, qui nous montrent d'abord une association automatique entre nombre et l'espace, qu'on appellera l'effet SNARK. D'autre part, des interactions entre le système des nombres et celui de l'attention visio-spatiale. On verra que cela crée des biais au cours du calcul mental. Nous avons une attraction automatique vers les grands nombres ou vers les petits nombres en fonction de l'opération qui est menée. Et nous verrons que chez certaines personnes, cette représentation spatiale des nombres prend la forme d'une vraie ligne numérique visible, et c'est ce qu'on appelle la synesthésie numérique. Enfin, je parlerai de l'impact de ces recherches pour le développement de l'enfant, puisqu'il semble que la compréhension du concept de nombre dans l'espace, de ce lien entre nombre et espace, soit tout à fait fondamentale pour le développement de l'enfant. Alors, je commence donc avec cet effet SNARK. C'est un terme un petit peu amusant que nous avions créé à l'époque avec plusieurs collègues comme une acronyme, évidemment en hommage à Lewis Carroll, mais avec une petite faute d'orthographe si l'on veut, puisque c'est un C et non pas un K à la fin de SNARK. L'idée, c'était de parler d'une association spatiale et numérique au niveau des codes de réponse. Mais de quoi s'agit-il ? Au départ, c'est une découverte empirique tout à fait fortuite. Nous étions en train d'étudier la manière dont une personne juge la parité d'un nombre, puisque nous nous intéressions à la forme des connaissances numériques des personnes. Donc nous avions mis au point cette tâche psychologique dans laquelle une personne doit juger si un chiffre est pair ou est impair. Et évidemment, dans la mesure où nous faisions de la chronométrie mentale, il y avait une main de réponse qui servait à dire pair, l'autre qui servait à dire impair. Et comme on cherche toujours à égaliser toutes les variables possibles, eh bien, on avait fait en sorte que dans un bloc, la main droite répondait pair, et dans l'autre bloc, c'est la main gauche qui répondait pair. Et donc, les instructions étaient inversées au milieu de l'expérience. Mais le résultat de cette manipulation, c'était que de façon tout à fait fortuite, on avait finalement pour chaque nombre, qu'il soit pair ou qu'il soit impair, on avait la moitié des réponses qui étaient faites avec la main droite, et puis dans un autre bloc de l'expérience, l'autre moitié des réponses qui étaient faites avec la main gauche. Et a priori, on ne s'attendait pas spécialement à voir un effet de cette variable, mais en fait, on a découvert par hasard un effet tout à fait majeur de cette variable spatiale que vous voyez ici. Donc, on a porté sur ce diagramme, en fonction des nombres qui sont présentés au sujet, de 0 à 9, la différence entre le temps de réponse avec la main droite et le temps de réponse avec la main gauche. Alors que, évidemment, le sujet fait le même jugement dans les deux cas. Vous voyez que plus le nombre est grand, plus les réponses s'accélèrent avec la main droite par rapport à la main gauche. C'est un effet extraordinairement régulier, monotone, avec une légère courbe ici qui rappelle évidemment ce codage logarithmique des nombres dont je vous avais parlé. En tout cas, une régression significative entre la taille du nombre et le côté de l'espace qui est privilégié. Les sujets préfèrent répondre avec la main droite pour un grand nombre et avec la main gauche pour un petit nombre. C'est un effet dont on n'est pas nécessairement conscient, mais vous voyez qu'il est d'une amplitude quand même considérable en psychologie, hein, plusieurs dizaines de millisecondes, ici typiquement 50-60 millisecondes. Alors, beaucoup d'études depuis cette première découverte ont eu lieu pour essayer de caractériser cet effet SNARK, donc d'association entre les nombres et l'espace, et on sait que cet effet apparaît assez rapidement au cours du développement, vers le CE2, En fait, il semble que cet effet traduise, parmi d'autres effets, l'automatisation du lien entre les symboles des nombres, les chiffres arabes, et la représentation des quantités. Donc on sait que c'est à peu près à la même époque que se développe un autre effet d'interaction au niveau de la quantité numérique, qui est l'interaction entre la taille des nombres et la taille physique des chiffres dont je vous avais parlé, c'est-à-dire que si le chiffre est petit, on a du mal à dire que par ailleurs il est grand sur le plan numérique. Ces effets apparaissent donc chez l'enfant à un moment, vers le CE2, où s'automatise le lien entre le symbole et la quantité. Et à ce moment-là, on voit que très automatiquement, il y a aussi un lien entre le symbole et la position spatiale correspondante. Alors, quelle est la nature de la représentation qui est engagée dans cet effet SNARK ? Eh bien, un indice, c'est que les lettres et d'autres séquences ordinales, comme les jours de la semaine ou les mois, typiquement, ne donnent pas lieu à un effet SNARK. Donc, il semble que ce soit plutôt la quantité numérique que l'ordinalité, qui est évidemment présente dans le cas des lettres, qui suscite cette association des nombres et de l'espace. Et de fait, on peut montrer que c'est la taille des nombres, mais la taille relative des nombres qui compte, c'est-à-dire la taille par rapport à l'intervalle de nombres qui est testé à un moment donné dans l'expérience. Nous avons fait cette expérience assez simple qui consistait à prendre les nombres entre 0 et 9, mais dans certains blocs de l'expérience, à se limiter en fait soit au nombre de 0 à 5, soit au nombre de 4 à 9. Oui, dans un bloc entier de l'expérience, le sujet sait que tous les nombres porteront entre 0 et 5. Et à ce moment-là, évidemment, les nombres 4 et 5 sont les plus grands de l'intervalle. Et puis dans un autre bloc, puisque les nombres sont limités entre 4 et 9, eh bien 4 et 5, cette fois-ci, sont les nombres les plus petits de l'intervalle. Et ce que vous voyez sur ce diagramme ici, c'est que l'effet d'association avec l'espace s'inverse totalement. C'est-à-dire que lorsque 4 et 5 sont les nombres les plus grands, on y répond plus vite avec la main droite qu'avec la main gauche, donc il y a une association avec la partie droite de l'espace, alors que lorsque 4 et 5 sont les nombres les plus petits de l'intervalle, eh bien on y répond plus rapidement avec la main gauche. Donc il semble que ce soit bien un jugement de taille sur les nombres par rapport à une référence courante qui soit mise en jeu dans cette association entre les nombres et l'espace. Maintenant, évidemment, la question se pose de savoir pourquoi cette direction privilégiée, petit nombre à gauche, grand nombre à droite. Est-ce que c'est un effet hémisphérique? Est-ce que c'est un effet neurologique? Est-ce que c'est un effet culturel? Poser la question, eh bien, il faut donc faire différentes expériences. Première expérience très simple, est-ce que les droitiers se comportent comme les gauchers? La réponse est absolument oui. Que l'on soit gaucher ou droitier, on a cette association des grands nombres avec la partie droite de l'espace. Deuxième question, est-ce que c'est l'espace qui compte ou est-ce que c'est peut-être l'hémisphère qui commande la main qui donne la réponse? Pour le savoir, on peut faire une expérience extrêmement simple. Le sujet a deux boutons devant lui pour faire ses réponses chronométrées et on demande au sujet de croiser les mains pour faire sa réponse. Donc cette fois-ci, il va faire une réponse dans la partie droite de l'espace mais avec la main gauche. Et la question évidemment, c'est est-ce que c'est la main qui compte ou bien est-ce que c'est l'espace devant lui qui compte? Et la réponse, c'est que c'est l'espace qui compte, c'est-à-dire que l'effet ne change absolument pas lorsqu'on demande au sujet de croiser les mains. C'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que, évidemment, dans le cerveau du sujet, tout le circuit de commande de la réponse motrice est inversé, mais la programmation des réponses semble se faire au niveau d'une représentation de l'organisation spatiale de l'espace des réponses possibles, et c'est avec cette organisation abstraite, donc spatiale, que les nombres sont associés. Alors, troisième manipulation, vous voyez qu'au fil de ces manipulations, finalement, on n'arrivait pas à modifier la direction de cet effet d'association entre nombre et espace. Finalement, on a trouvé une manipulation qui modifie l'association entre nombre et l'espace. C'est le sens de l'écriture, de la culture dans laquelle les sujets sont testés. Donc, la première démonstration, nous avions pu la faire en France avec des sujets iraniens, qui était arrivé depuis plus ou moins longtemps en France. Et ce que nous avions pu montrer, c'est simplement que chez les gens qui sont en France depuis très longtemps, ils se comportent exactement comme les sujets français. Ils associent les grands nombres à la partie droite de l'espace. Mais chez les gens qui étaient arrivés depuis peu de temps, eh bien, on avait essentiellement un effet plat. Et en fait, lorsqu'on faisait une régression en fonction du nombre d'années passées en France, eh bien, on voyait une tendance à ce que l'effet s'inverse complètement. Alors, c'était un petit peu préliminaire comme démonstration. Depuis, il y a eu d'autres travaux, ceux de Zébian, ceux de Fischer, qui ont clairement montré que dans des cultures dans lesquelles il y a vraiment une dominance complète de la direction de l'écriture de droite vers la gauche, par exemple en Afrique du Nord, eh bien, à ce moment-là, on observe une inversion complète de l'effet et on observe que les petits nombres sont associés à la droite et les grands nombres sont associés à la gauche. On peut se demander si c'est vraiment le sens de l'écriture en soi, puisqu'il semblerait, dans les travaux assez récents de John Hopfer, qu'avant même d'avoir appris à lire, on ait déjà un certain biais spatial. Donc, je pense personnellement que le sens de l'écriture n'est finalement que le reflet d'une variable culturelle beaucoup plus vaste, qui est un biais spatial, directionnel, que l'écriture, bien entendu, reflète, mais qui va beaucoup plus loin. On a des biais, par exemple, chez les très jeunes enfants, dans la manière de parcourir un tableau. Et en général, les enfants donc, vont le faire de la gauche vers la droite dans nos cultures. De la même manière, la représentation du temps est orientée de la gauche vers la droite et la représentation du nombre, finalement, suit cette même convention de la gauche vers la droite. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas des bases profondes à cet effet. Donc, je crois qu'il faut faire une différence ici entre la direction de l'effet, qui est clairement influencée par la culture dans laquelle nous vivons, et l'existence même d'un lien entre les nombres et l'espace, qui semble avoir évidemment une origine beaucoup plus profonde. Alors, avec Ed Hubbard au laboratoire et Philippe Pinel, nous avons commencé à étudier les bases cérébrales de cette association des nombres et de l'espace, et l'idée était donc de voir si vraiment il y a des liens entre cartes numériques et cartes spatiales dans le lobe pariétal. Pour ce faire, nous avions donc réalisé cette expérience avec l'IRM fonctionnel. La première partie de l'expérience consistait tout simplement à répliquer ce jugement de parité qui génère donc cet effet SNARK d'association nombre-espace dans l'IRM. Donc le sujet est allongé dans l'IRM, il voit des chiffres, il doit juger s'ils sont pairs ou impairs. Il ne sait pas du tout qu'on est en train de tester le lien avec l'espace, mais on lui demande de faire donc l'expérience, une partie avec les mains en position normale, une autre partie avec les mains croisées. Et ça nous permet finalement de manipuler trois facteurs orthogonaux. Quelle est la main qui est utilisée pour faire la réponse, gauche ou droite? Quelle est la moitié de l'espace qui est utilisée pour faire la réponse, gauche ou droite? Et quelle est la taille du nombre, petit ou grand? Et puis, pour explorer d'autres représentations de l'espace, dans un autre bloc de l'expérience, on fait faire au sujet des saccades, qui consistent donc à déplacer les yeux soit vers la droite, soit vers la gauche. Et dans un troisième bloc, on a ce qu'on appelle un localisateur qui permet de retrouver les activations évoquées par l'arithmétique mentale au sein du sillon intrapariétal, donc une tâche de soustraction dont on soustrait les composantes non numériques en comparant avec l'activation évoquée par des phrases qui n'ont pas un contenu numérique. Alors, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'on est tout à fait capable de répliquer donc, cet effet d'association nombre-espace dans une IRM. L'effet est présent, donc on voit bien que les grands nombres continuent d'évoquer une réponse plus rapide du côté droit de l'espace, même quand les sujets ont les mains croisées. Donc on a pu voir que l'effet restait le même que les sujets et les mains en position normale ou en position main croisée. Néanmoins, il y a des choses peut-être intéressantes. Ici, le sujet dans une IRM est allongé, il voit l'écran à travers un miroir, et tout ceci crée une forme de désorientation spatiale qui fait que l'effet semble moins fort dans la situation d'IRM qu'en dehors de l'IRM. C'est un domaine dans lequel on se pose des questions, mais il est clair qu'on fait appel ici à des représentations spatiales qui peuvent être partiellement perturbées par la situation inhabituelle de l'IRM. En tout cas, il y a un effet donc, d'association nombre-espace, et pour examiner ces bases cérébrales, on s'est fondé sur une analyse en région d'intérêt. Donc Ed Hubbard, qui a réalisé ce travail, a identifié quatre régions d'intérêt. L'une d'entre elles, évidemment, c'est celle qui, dans le sillon intrapariétal, correspond aux activations lors de l'arithmétique. On la retrouve ici. Hein. Lorsqu'on fait des soustractions par rapport à l'écoute de phrases qui n'ont pas un contenu numérique. Mais vous voyez qu'il y a trois autres régions qui nous intéressent ici, qui en fait s'intéressent aux côtés de l'espace associés à différents effecteurs. Donc lorsqu'on utilise la main droite par rapport à la main gauche, on voit que la partie antérieure du sillon intrapariétal s'intéresse aux côtés de la main, finalement, qui est utilisée par le sujet. Le côté de l'espace, lui, est codé un tout petit peu plus en arrière dans le sillon intrapariétal, dans la partie dorsale du lobe pariétal. Et une troisième région tout à fait en arrière, ici, qui correspond probablement à l'homologue chez l'homme de la région LIP du singe, s'intéresse aux côtés des saccades qui sont faites. Donc on peut voir ces trois régions de façon plus nette sur cette diapositive. On a codé donc en rouge les activations pour la partie droite et en bleu les activations pour la partie gauche. Et vous voyez que pour ce qui est de la main droite ou gauche, c'est une région relativement antérieure qui s'intéresse au fait qu'on utilise la main droite ou la main gauche. Pour l'espace, c'est une région moyenne. Et pour les saccades, droite ou gauche, c'est une région nettement postérieure qui s'intéresse à la direction des saccades. Donc la question, évidemment, ça va être les nombres qui sont situés au sein du sillon intrapariétal, ici quelque part au milieu, est-ce qu'ils ont des interactions préférentielles avec le système de la main, avec le système de l'espace ou avec le système des saccades? Est-ce qu'on peut expliquer l'association nombre-espace sur le biais d'interactions fonctionnelles entre cartes dans le lobe pariétal? Alors pour ce faire, on a donc regardé au sein de chacune de ces régions, donc vous avez ici les quatre régions, la main, l'espace, les saccades ou le calcul, et pour chacune de ces régions, vous avez l'effet correspondant des quatre facteurs qui sont manipulés dans l'expérience, le côté de la main, le côté de l'espace, le côté de la saccade et la taille des nombres. Donc, première chose que l'on peut voir, qui est évidemment évidente, puisque c'est comme ça qu'on a sélectionné ces régions, donc la diagonale ici vous montre bien qu'on observe un effet de la main, donc dans un sens, dans un hémisphère, donc c'est l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit, dans un sens dans l'hémisphère gauche, dans l'autre sens dans l'hémisphère droit. Et évidemment, c'est comme ça qu'on a sélectionné ces régions. La région pour la main a un effet de main, la région pour l'espace a un effet d'espace, la région pour les saccades a un effet de saccades. Vous voyez qu'il y a néanmoins des interactions entre ces régions, et par exemple, la région qui s'intéresse à l'espace a également un petit effet du côté de la main qui est utilisé pour la réponse. Alors, le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la colonne en fonction de la taille des nombres et quelles sont les régions qui sont modulées dans leur activation latéralisée en fonction de la taille des nombres. Et on voit que c'est la région qui s'intéresse aux saccades, mais qui en fait est connue également pour s'intéresser au mouvement de l'attention, qui subit un petit effet latéralisé de la taille des nombres, c'est-à-dire que lorsque le nombre est grand, le sujet a un peu plus d'activation du côté gauche, donc du côté qui code la partie droite de l'espace, et lorsque le nombre est petit, il y a un petit peu plus d'activation dans l'équivalent humain de LIP du côté droit, et donc c'est la partie qui code l'espace gauche. Donc vous voyez que cette interaction ici, c'est un effet qui est assez petit, hein, mais qui n'est pas non plus extraordinairement différent de ce qu'on observe lorsqu'on fait réellement des saccades, peut suggérer donc qu'un nombre active automatiquement le système directionnel d'orientation du regard et de l'attention. Et cette interaction, évidemment, est un niveau d'abstraction qui explique que ça n'interagisse absolument pas avec le fait que le sujet ait les mains croisées ou non, par exemple, parce que c'est une représentation de l'espace auquel on va faire attention. Donc, en résumé, l'interaction entre les régions ventre, VIP, ventral intrapariétal, dans lesquelles on trouve ces activations liées au nombre et au calcul mental, et la région LIP, latéral intrapariétal, qui s'intéresse au mouvement de l'attention et des saccades, pourrait être responsable de l'association nombre-espace. Le traitement des nombres fait appel de façon préférentielle à cette région intrapariétale, et on sait, chez le singe en tout cas, qu'il y a des connexions très fortes entre les deux régions, VIP et LIP, bidirectionnelles, et que les deux régions, aussi bien chez l'homme que chez le singe, contiennent des cartes spatiales. Outre donc ce rôle qui est peut-être particulier dans le domaine des nombres, probablement la fonction primordiale de ces régions, c'est de coder à différents niveaux l'espace qui entoure l'animal. Il est intéressant de voir que si l'on interfère avec les représentations spatiales, on revient à la psychologie maintenant, eh bien on peut abolir l'effet SNARK. C'est le travail de Herrera et collaborateurs qui vient de paraître. Donc si l'on demande au sujet, pendant qu'il fait cette tâche de classification de la parité des nombres, si l'on lui demande également de retenir une information qui est soit de nature spatiale, soit de nature verbale, eh bien la tâche concurrente de retenir une information spatiale abolit l'effet d'association nombre-espace, alors que la tâche concurrente verbale n'abolit pas l'effet d'interaction nombre-espace. Donc ça suggère que lorsqu'on fait appel à la mémoire de travail spatiale, eh bien on interagit avec probablement ce circuit dans la région LIP et on empêche cet effet d'association des nombres et de l'espace d'apparaître dans les temps de réaction, alors que par ailleurs les temps de réaction ne sont pas spécialement ralentis. Donc c'est une interférence sélective avec un effet supplémentaire, un effet d'activation supplémentaire dans le cerveau du sujet. Alors, on peut se demander maintenant s'il y a vraiment ce lien entre ces deux aires, ce lien très automatique, est-ce qu'il n'a pas des effets, finalement, directement sur l'attention du sujet, et pas simplement sur le côté de réponse ou sur la vitesse de réponse dans l'espace. Et ici, on doit citer absolument un travail de Fisher, qui est paru dans Nature Neuroscience en 2003, qui nous a ouvert les yeux en montrant que finalement, l'association nombre-espace était encore plus automatique qu'on le pensait, et qu'elle pouvait simplement attirer l'attention. Donc le travail est très simple ici, c'est une tâche associée au travail de Michael Posner. Il s'agit tout simplement de détecter une cible périphérique qui apparaît, donc le carré ici devient un petit peu plus noir, il faut le détecter, et avant l'apparition de ce carré, soit à droite, soit à gauche du point de fixation, eh bien, il y a un indice qui est l'apparition d'un chiffre. Simplement cet indice, dans cette expérience, est totalement non informatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien particulier entre le chiffre qui apparaît ici et le côté où va apparaître la cible périphérique. Les chiffres peuvent aller de 1 jusqu'à 9, mais que ce soit 1 ou 9, il y a la même probabilité que la cible apparaisse à droite ou à gauche. Évidemment, il y a un lien quand même dans la mesure où on sait que lorsque le chiffre apparaît, très rapidement après, va apparaître la cible. Eh bien, les temps de réaction montrent que le sujet s'accélère progressivement à mesure qu'on fait varier l'intervalle entre le chiffre et la cible périphérique. Donc, quelque part, l'attention temporelle est impliquée. Mais il y a aussi un effet d'attention spatiale. Et vous le voyez dans la fin de ces courbes ici, vers 300-400 millisecondes, le sujet devient plus rapide à détecter les flashs lumineux qui apparaissent du côté droit lorsque le chiffre qui précède est grand, et il est plus rapide à détecter les flashs lumineux qui apparaissent du côté gauche lorsque le chiffre qui précède est petit. Et ceci alors que le chiffre n'est pas informatif. Donc on a l'impression, à travers ces résultats, que l'attention est attirée tout à fait automatiquement d'un côté de l'espace. Bon, il faut savoir que c'est un effet qui n'est pas très gros. Vous voyez qu'ici, il est vraiment à peine de quelques dizaines de millisecondes ou d'une dizaine de millisecondes. Et les résultats plus récents suggèrent qu'il n'est pas si facile à répliquer et que probablement, il y a une forme de composante stratégique qui est impliquée tout de même. C'est-à-dire que le sujet doit prêter attention aux chiffres. La tâche, d'une manière ou d'une autre, à travers les instructions, doit lui dire que le chiffre a une certaine pertinence, même s'il n'est pas directement informatif pour le côté de la réponse. Donc, si on peut éliminer cet effet si on ne prête absolument aucune attention aux chiffres qui précèdent. Mais si on prête un petit peu attention, à ce moment-là, on observe ces effets d'association avec le côté de l'espace. Et là encore, Ed Hubbard, avec Maria Grazia Rancini au laboratoire, vient de montrer qu'il y a des effets qui sont mesurables également au niveau cérébral d'attraction automatique de l'attention. Ils ont tout simplement répliqué l'effet observé par Fisher dans une situation où, avec l'aide des potentiels évoqués, on peut mesurer directement l'effet d'activation d'un système d'attention spatiale. C'est ce qu'on appelle l'onde EDAN, c'est-à-dire Early Directing Attention Negativity, qui survient vers à peu près 300 millisecondes. Ici, par exemple, dans un travail récent, on le voit au niveau du scalp. Donc, vous voyez que c'est un effet latéralisé qui survient au niveau dorsal et qui traduit le fait que l'attention du sujet a été attirée vers la droite ou vers la gauche, par exemple, par une flèche. Eh bien, la question qui était posée donc, dans ce travail, c'est est-ce que la présentation d'un nombre, même totalement non pertinent pour la tâche, va générer une onde EDAN ? Le travail de Maria Grazia et de Ed a consisté donc à comparer une condition dans laquelle on présente une flèche. Alors, on savait déjà par les travaux précédents qu'une simple flèche suffit à attirer l'attention vers la gauche ou vers la droite, même s'il n'y a pas de lien entre cette flèche et la cible qui suit. Hein. Et puis, dans une autre condition, ils ont présenté des chiffres qui pouvaient être petits ou grands. Et là encore, il y a une cible qui suit. La cible n'est pas corrélée avec le chiffre. Elle peut apparaître à droite ou à gauche de façon aléatoire. Mais la question, c'est est-ce que le chiffre ou la flèche, le chiffre comme la flèche, attire l'attention du sujet ? Eh bien, dans les deux cas, ils ont observé cette onde EDAN, donc qui reflète l'activation d'un système attentionnel. Vous voyez que c'est la différence entre ces deux courbes ici, qui n'est pas énorme, hein, mais c'est un petit effet d'attraction automatique de l'attention du côté contralatéral au côté auquel le sujet fait attention. Excusez-moi, c'est une activation donc cérébrale qui est contralatérale au côté auquel le sujet fait attention et qui crée donc cette différence entre ces deux courbes qui émerge vers 250-300 millisecondes ici. Et cet effet attentionnel est présent de façon assez forte lorsqu'on présente une flèche. Mais en fait, un chiffre tout seul suffit déjà à créer cette activation du système attentionnel avec un petit effet significatif ici qui apparaît à peu près au même moment. Bon, ça reste difficile de déterminer la localisation précise de ces effets. Ce sera très intéressant de poursuivre ces travaux avec une méthode comme la magnétoencéphalographie, par exemple, qui permettra de cibler très, très précisément les systèmes cérébraux à l'origine de ce type d'effet et donc de savoir si c'est bien la région LIP qui est intéressée par cette attraction automatique de l'attention. Bon, d'autres travaux mettant en liaison les nombres et l'attention, tout à fait remarquables, portent sur un syndrome avec lésion cérébrale qui s'appelle l'hémi-négligence spatiale. L'hémi-négligence spatiale, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce syndrome, qui survient très fréquemment à la suite de lésions pariétales ou parfois frontales de l'hémisphère droit, très souvent, donc, il s'agit d'une hémi-négligence gauche, dans laquelle le patient, bien qu'il ne soit pas aveugle, cesse de prêter attention à la partie gauche de l'espace. Un certain nombre de tests extrêmement classiques le montrent, par exemple le test de copie d'une horloge ou d'une maison ou d'une fleur, qui montre que le patient oublie de copier la partie gauche de ses dessins. Le test de barrage de lignes, on demande au patient de barrer toutes les lignes qui sont présentes sur la feuille de papier, mais le patient ne barre que celles qui sont tout à fait à droite de l'espace, donc il n'arrive pas à porter son attention du côté gauche de l'espace. Et un test encore plus simple, qui est le test de bisection de lignes. On présente une simple ligne devant la personne, on lui demande de placer un trait au milieu de cette ligne. La personne est incapable de repérer le milieu et en fait déplace systématiquement son trait vers la droite de l'espace. Donc elle néglige la partie gauche de l'espace. Eh bien, la question qui a été posée par Marco Zorzi, c'est est-ce qu'une hémi-négligence spatiale s'accompagne aussi d'une hémi-négligence dans le domaine numérique ? C'est-à-dire, est-ce que c'est le même système attentionnel qui nous permet de prêter attention à l'espace des nombres, si vous voulez. Et pour ce faire, il a tout simplement repris le test de bisection de ligne, mais en l'étendant dans le domaine des nombres. Donc la tâche est une tâche de bisection numérique, très simple. On pose la question, quel nombre tombe au milieu, par exemple, de 11 et de 19 ? pouvez réfléchir deux secondes, vous tombez sur le résultat qui est 15. Eh bien, ce qui est intéressant avec ce test, c'est qu'il n'y a absolument aucune notion d'espace, ni dans la manière dont la question est posée, ni dans la réponse. C'est-à-dire la question est auditive, verbale, la réponse est verbale. Vous voyez que l'espace, a priori, n'est pas impliqué de façon directe. Néanmoins, lorsque vous posez la question à un patient qui souffre d'hémi-négligence, eh bien, très souvent, presque la plupart du temps, vous observez une négligence numérique, c'est-à-dire que la réponse du patient se déplace vers les grands nombres. Et par exemple, le patient va répondre que 17 est au milieu de 11 et de 19. On voit ici les résultats obtenus chez des sujets contrôles, qui sont tout à fait capables de faire cette tâche. Donc, quel que soit l'intervalle entre les deux nombres qu'il s'agit de bisecter, leur réponse tombe aux alentours de zéro, c'est-à-dire de la bonne réponse, et on voit au contraire que les patients se déplacent systématiquement vers la droite, si l'on peut, en tout cas, si on veut dire, en tout cas, vers les grands nombres, avec un biais plus ou moins variable suivant le patient qui est testé. Mais il faut savoir que c'est un test qui s'est avéré extraordinairement sensible de l'hémi-négligence, au point que des patients qui n'auraient plus une hémi-négligence sur le plan clinique continuent d'avoir une hémi-négligence avec ce test de bisection des nombres. L'effet de l'intervalle entre les nombres est intéressant, puisque vous voyez que lorsque l'intervalle est petit, finalement, les patients arrivent à faire la tâche, et c'est seulement lorsque l'intervalle entre les nombres est suffisamment grand que l'on observe ces biais numériques importants. Eh bien, c'est tout à fait analogue à ce qui est observé dans le domaine de la bisection des lignes spatiales. C'est ce qui avait été observé par Halligan et Marshall. Une ligne grande subit un effet de négligence plus important qu'une ligne petite. Et on voit qu'ici, il y a un parallèle absolument parfait avec la bisection des nombres. C'est tout à fait frappant de voir des patients qui, par ailleurs, ne sont pas acalculiques, faire des erreurs aussi massives dans une tâche aussi simple que de donner le nombre qui est au milieu de deux autres. Mais ça veut dire que dans une tâche aussi simple que celle-là, nous faisons appel à un système attentionnel, nous explorons cette ligne numérique mentalement avec un système attentionnel qui peut être biaisé par une lésion cérébrale. Il y a eu de nombreuses réplications de cet effet, et notamment, je voudrais mentionner le travail d'Yves Rossetti à Lyon, qui a étendu ses résultats. Yves Rossetti a montré au départ dans le domaine spatial que le port de prisme qui déplace le monde visuel du sujet, crée une illusion de déplacement, peut aider les patients hémi-négligents, et de façon assez remarquable, il a montré que le port de prisme et le fait d'entraîner le sujet à faire un geste de pointage ou d'aller attraper un objet avec ses prismes devant les yeux qui déplacent son monde visuel, eh bien le port de prisme modifie et corrige en fait les biais dans le domaine de la perception numérique, dans cette tâche de bisection numérique. Donc, un entraînement spatial affecte la cognition numérique. C'est à nouveau une preuve tout à fait manifeste du lien très fort entre ces deux domaines. Alors, les expériences ne manquent pas dans ce domaine, et je m'excuse de faire un petit catalogue, mais beaucoup d'entre elles sont extrêmement intéressantes dans la mesure où elles montrent la profondeur de cette association entre les nombres et l'espace, et le fait que l'association nombre-espace peut affecter même les jugements psychophysiques les plus simples. Et là, je voudrais citer un travail de Casarotti et collaborateurs dans Cognition l'année dernière, qui montre que cette association peut modifier notre perception de l'ordre dans lequel se sont produits des événements dans le monde extérieur. Leur expérience est la suivante. Elle consiste à présenter deux flashs lumineux, l'un à gauche, l'autre à droite, soit simultanément, soit avec un petit décalage temporel. La gauche peut arriver en premier, ou dans d'autres essais, la droite peut arriver en premier. La tâche du sujet, c'est de dire dans quel ordre sont apparus ces stimuli. Est-ce que c'est le flash de gauche qui est apparu en premier, ou est-ce que c'est le flash de droite qui est apparu en premier? Une tâche extrêmement simple et, vous voyez, très psychophysique. C'est vraiment la perception visuelle la plus fondamentale. Alors, on fait précéder cette présentation par la présentation d'un chiffre qui, à nouveau, est totalement non pertinent. Simplement, le sujet doit le rappeler à la fin de l'essai. Eh bien, ce que l'on observe dans les résultats, de façon tout à fait claire, c'est que les réponses des sujets, la perception même de l'ordre temporel, est biaisée par la présentation initiale du chiffre. Vous voyez que lorsque le chiffre initial est petit, ici, on est dans la situation où les deux flashs lumineux à l'insu du sujet sont présentés absolument simultanément, mais le sujet doit prendre une réponse. Hein, est-ce que c'est celui de gauche ou celui de droite qui est arrivé en premier? Eh bien, on voit que le pourcentage de réponse, c'est celui de gauche qui est arrivé en premier, est de l'ordre de 60% lorsque le nombre qui précède est petit, et tombe à 30 ou 40% lorsque le nombre qui précède est grand. Donc, il y a un biais dans la perception même de l'ordre qui est suscité par l'orientation de l'attention induite par la présentation initiale du chiffre. On le voit aussi lorsqu'on fait maintenant varier systématiquement le délai, donc plus seulement à 0 ici, mais plus 5 ou moins 5 millisecondes, plus 10 ou moins 10 millisecondes. Et vous voyez que l'ensemble de la courbe psychophysique du sujet est déplacé dans ce jugement de la perception, donc de l'ordre temporel de stimuli, un nombre, finalement, un effet en retour sur le système perceptif par le biais de cette attraction automatique de l'attention. Alors, il faut savoir que cet effet ne se produit néanmoins que si l'on demande au sujet de prêter attention au chiffre, par exemple en lui demandant de rapporter le chiffre à la fin de l'essai. Si le chiffre est absolument sans pertinence aucune pour la tâche, l'effet disparaît. Et donc, quelque part, il faut que le chiffre soit codé dans le système. La notion d'automaticité ici doit être relativisée. Il faut au moins que la personne prête attention aux chiffres pour que cet effet survienne. Il faut savoir aussi que la présentation d'une lettre n'a aucun effet, que la lettre soit en début ou en fin de l'alphabet. Donc à nouveau, c'est plutôt la quantité que l'ordinalité qui est en jeu ici. Finalement, une autre expérience intéressante a posé la question, est-ce que ces interactions entre nombre et espace sont réciproques ? Depuis le départ de cet exposé, je vous présente des expériences où un nombre biaise la perception de l'espace. Mais est-ce que, dans le sens inverse, la perception de l'espace peut biaiser le sens des nombres ? Eh bien, cette expérience de Stoyanov le montre. Ici, on demande au sujet un jugement sur un chiffre. Par exemple, ça peut être de le comparer, ou ça peut être de juger sa parité, pair ou impair. Et on va faire suivre le chiffre d'un indice qui vient donc très rapidement après ce chiffre, 59 millisecondes, et c'est un indice spatial, un flash lumineux qui apparaît du côté gauche ou du côté droit. Eh bien, vous voyez que le côté du flash lumineux, à gauche ou à droite, interagit avec la taille du nombre qui est présenté dans deux tâches qui sont très différentes l'une de l'autre, la comparaison ou le jugement de parité. Autrement dit, un indice qui attire votre attention du côté gauche facilite votre traitement des petits nombres, un indice qui attire votre attention du côté droit facilite le traitement des grands nombres. Et les biais donc fonctionnent dans les deux directions, y compris lorsque l'indice apparaît après le nombre, ce qui est tout à fait frappant. Donc il y a une sorte de course dans le cerveau entre un codage spatial, un codage numérique et des interactions très rapides entre les deux systèmes. Alors, je dois encore mentionner qu'il existe des effets encore plus exotiques que ceux que je vous ai présentés et qu'il semble, en fait, à mesure qu'on explore ces effets, que les interactions entre le système des nombres et tous les autres grands systèmes de codage au sein du lobe pariétal soient extrêmement nombreuses. Par exemple, dans ce travail ici, on a testé l'interaction entre le système des nombres et le système de préhension manuelle. Je vous avais montré au tout départ que, sur le plan anatomique dans le lobe pariétal, ce sont des systèmes assez proches. Ici, les auteurs ont simplement répliqué cette tâche de jugement de parité, dire si un chiffre est pair ou impair, mais au lieu de faire une réponse en appuyant sur un bouton à droite ou à gauche, la réponse se fait en attrapant un objet et on fait deux types de réponses possibles, soit on attrape l'objet avec une pince large, ce qu'ils appellent power grip, soit on attrape l'objet avec une pince étroite de la main, ce qu'ils appellent precision grip. Donc, imaginez l'instruction au sujet, dans un bloc donné, si le chiffre est pair, vous devez faire ce geste de power grip, et si le chiffre est impair, vous devez faire ce geste d'attraper avec précision l'objet. Eh bien, il y a une interaction entre les deux paramètres, c'est-à-dire que lorsque le nombre est grand, les sujets préfèrent réaliser l'action qui est la plus grande, c'est-à-dire d'avoir une pince large, manuelle, et lorsque le nombre est petit, ils préfèrent réaliser l'action qui est petite, étroite, qui consiste à attraper avec précision un objet étroit. Vous voyez que c'est une interaction au niveau des temps de réaction ici. Le sujet programme son action plus facilement lorsqu'il y a une congruence entre la taille du nombre et la taille du geste manuel qui doit être réalisé. Ce type d'interaction est extrêmement fréquent et même la trajectoire spatiale de l'action va être affectée par le nombre qui est présenté. Ça a été testé récemment par Ken Nakayama et collaborateurs dans une tâche de comparaison de nombres. Et que la tâche ici est très simple, on voit des chiffres, ils apparaissent au milieu. Si c'est 5, on doit aller taper la boîte du milieu. Si c'est un nombre plus petit que 5, on doit aller taper la boîte de gauche. Et si c'est un nombre plus grand que 5, on doit aller taper la boîte de droite. L'intérêt de cette tâche, c'est que le sujet démarre son geste à une position qui est assez éloignée des boîtes, et on va mesurer l'ensemble de la trajectoire de la main qui se dirige vers l'une des trois boîtes de réponse possibles. Et le résultat qu'ont observé Nakayama et collaborateurs, c'est que la trajectoire spatiale est biaisée par le chiffre qui précède. Vous voyez que si le chiffre est 1, 2, 3 ou 4, on voit très clairement sur ces graphes que la variance est modifiée, mais également, si l'on regarde précisément, la moyenne de la trajectoire est biaisée, et plus le chiffre est petit, plus la trajectoire s'écarte sur la gauche de l'écran de réponse. Donc là encore, en temps réel, si vous voulez, au moment où l'action est programmée, un chiffre va avoir un effet de biais spatial massif. J'aurais pu citer encore de nombreux autres travaux. Il émerge très récemment des travaux qui suggèrent qu'il y a des interactions similaires entre les nombres et la représentation du temps, notamment la durée perçue d'un stimulus visuel. D'autres travaux montrent que les nombres sont associés à certains doigts, et lorsque nous comptons sur les doigts, nous créons ces associations entre nombres et doigts. Et de manière générale, ces résultats s'inscrivent dans la notion que la sphère du lobe pariétal dans le cerveau humain intervient pour le codage du nombre, de l'espace et du temps, trois systèmes de grandeur qui seraient codés de façon similaire avec des liens très étroits, et peut-être un même système attentionnel qui nous permet de prêter attention à ces trois dimensions importantes. C'est ce que Vincent Walsh a développé dans un article en 2003, que je me contenterai de citer ici, qu'il appelle « Atom, a Theory of Magnitude », l'idée que les grandeurs, qu'elles soient spatiales, numériques ou temporelles, sont représentées et manipulées par les structures du lobe pariétal. Je vous ai parlé pour l'instant exclusivement de ce qui se produit lorsqu'on présente un chiffre et qu'on se contente, par exemple, de juger sa parité. Mais évidemment, on peut se poser la question, est-ce que ça affecte aussi notre capacité de calculer? Est-ce qu'il y a des interactions entre nombre et espace au cours du calcul mental? Et dans ce domaine, on a découvert récemment des effets de biais spatiaux que je voudrais également mentionner. On les observe à travers des tâches de calcul non symboliques que je vous avais présentées brièvement. C'est ici le travail de Colin McCrink et Karen Nguyen qui avaient utilisé ces dessins animés dans lesquels on voit cinq objets puis cinq autres se cacher derrière un écran. On peut ensuite baisser l'écran et dévoiler un certain nombre d'objets. Ici, évidemment, le résultat est faux. On vient de voir 5 plus 5 égale 5 objets. Et Karen Nguyen et Colin McCrink avaient montré que les bébés, même très jeunes, à 9 mois, sont capables de montrer leur surprise lorsque le résultat d'une opération est fausse. Mais cette présentation fournit également une excellente situation pour tester finalement la capacité d'un système non verbal de traitement des nombres à faire des opérations de type addition et soustraction. Et avec donc Colin McCrink, nous avons réalisé une expérience chez l'adulte où on étudie systématiquement la capacité d'un sujet donc adulte à juger de la véracité ou de la fausseté d'une opération arithmétique. On va lui présenter littéralement des centaines de films tels que celui que vous avez vu ici, et à chaque fois, on va demander à la personne, est-ce que vous pensez que c'est juste ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Est-ce que le résultat final est correct ou incorrect? En accumulant les données, on peut avoir une idée de la zone des nombres que les sujets acceptent comme corrects pour une opération telle que 5 plus 5 ou 10 plus 10, par exemple. Et donc, on arrive à une sorte de psychophysique du calcul mental. Je vous ai simplement redonné ici le résultat principal, qui est pour les additions comme pour les soustractions, l'idée que les sujets ont une zone de réponse préférentielle dans laquelle ils acceptent les résultats comme approximativement corrects. Donc ce que vous voyez sur ces graphes, c'est le pourcentage de réponses, l'opération est correcte, en fonction du résultat qui est proposé et pour différentes opérations. Par exemple, la courbe du milieu, ici, ce sont toutes les additions dont le résultat correct est 16. Vous voyez que le sujet a un pic de réponse lorsqu'on lui présente effectivement 16 points comme réponse possible. C'est là qu'il juge le plus souvent que l'opération est correcte. Vous voyez que le sujet accepte, par exemple, 20 points, comme étant également une réponse plausible pour cette opération, mais si l'on s'éloigne trop du résultat correct, que ce soit vers les petits nombres ou vers les grands nombres, eh bien, le pourcentage d'acceptation finalement de cette opération chute. Et c'est le cas, quel que soit le résultat de l'opération, que ce soit 8, que ce soit 16 ou que ce soit 32, vous voyez qu'il y a un pic de réponse à peu près à l'endroit approprié, donc le sujet est capable d'approximer des opérations. Simplement, si vous regardez attentivement ces courbes et peut-être si vous comparez les soustractions et les additions, vous verrez qu'il y a des biais très systématiques. Prenons par exemple les additions et les soustractions dont le résultat est 8. Si le sujet était précis, il devrait toujours avoir une courbe de réponse qui est centrée sur le résultat correct qui est 8. On voit qu'effectivement la courbe est centrée sur 8, mais elle est déplacée vers la droite pour les additions et elle est déplacée vers la gauche pour les soustractions. Ce que ça signifie, c'est que pour une addition, le sujet, bien qu'il soit, il ait un pic de réponse à la bonne position, préfère tout de même des résultats qui sont un petit peu plus grands que le résultat correct. Et lorsqu'il fait une soustraction, il préfère des résultats qui sont un petit peu plus petits que le résultat correct. Alors on peut le voir assez nettement en moyennant tous ces résultats, en les alignant sur le résultat correct ici, et en regardant donc, ce qui se passe lorsqu'on présente le résultat correct multiplié par 25%, par 50%, 100% de plus, ou la même chose vers les petits nombres ici. Vous voyez que les additions sont déplacées du côté droit vers les grands nombres, et les soustractions sont déplacées du côté gauche, ce qu'on a appelé un effet d'inertie, en anglais operational momentum, l'idée que lorsqu'on fait une addition, eh bien, on semble se déplacer un peu trop loin vers les grands nombres, et lorsqu'on fait une soustraction, eh bien, on semble se déplacer un peu trop loin vers les petits nombres. C'est un biais qui est très fort, qui est difficile à combattre, qui a été observé donc, dans plusieurs expériences. Et on peut se demander s'il s'agit d'un biais spatial. En tout cas, il y a un certain sens dans lequel une addition va dans la direction des grands nombres et une soustraction va dans la direction des petits nombres. Nous avons récemment étendu ces résultats avec André Knops, qui est en train de terminer ce travail au laboratoire. On peut changer légèrement la tâche. Vous voyez qu'ici, c'est une tâche un tout petit peu plus abstraite. Vous voyez la lettre A ou la lettre S qui vous dit d'additionner ou de soustraire. Vous voyez deux ensembles de points et vous devez réaliser l'opération mentalement. Et puis, vous avez sept choix possibles et vous choisissez l'un de ces sept choix possibles. L'intérêt de cette mesure, c'est que, en un essai, vous obtenez une estimation de la réponse préférée du sujet, alors qu'auparavant, on obtenait essentiellement un bit d'information par essai. Est-ce que le sujet juge l'opération correcte ou fausse? Eh bien, ici, on obtient presque l'équivalent d'une production par le sujet du nombre qu'il préfère pour une certaine opération. Donc ça nous a permis de tester très systématiquement un espace d'opération assez grand. Et je me contente de présenter cette diapo rapidement qui vous montre le résultat préféré par le sujet en échelle logarithmique par rapport au résultat correct de l'opération. En bleu, vous avez les soustractions. En rouge, vous avez les additions. Et vous voyez, la diagonale serait la performance optimale, correcte. Vous voyez que les sujets ne sont pas très loin de la diagonale. Ils sont capables de faire une certaine forme d'arithmétique mentale approximative ici. Mais néanmoins, les soustractions s'éloignent systématiquement de la diagonale vers le bas, c'est-à-dire que le sujet sous-estime une soustraction. Et les points rouges s'écartent peu, mais significativement, vers le haut, c'est-à-dire que le sujet surestime une addition. Donc c'est à nouveau exactement cet effet d'inertie. Il est intéressant de voir que cet effet survient même lorsqu'on approxime des opérations présentées sous forme de chiffres arabes. Donc ça n'est pas simplement un effet lié à la mauvaise perception des ensembles de points, c'est un effet qui a à voir avec la représentation centrale, amodale des nombres, que ceci soit présenté sous forme de chiffres arabes ou que ceci soit présenté sous forme de nuages de points. Évidemment, on voit que la précision du sujet est bien meilleure, donc il est encore plus proche de la diagonale lorsque les nombres sont présentés sous forme de chiffres arabes. On avait discuté au dernier cours de ce raffinement de la précision du système numérique qui est rendu possible par les symboles, mais ce n'est pas parce qu'on utilise des symboles qu'on échappe à ces biais qui finalement caractérisent l'ensemble de la cognition numérique. Donc les sujets continuent d'être biaisés vers les petits nombres pour les soustractions, vers les grands nombres pour les additions. Est-ce que c'est un effet spatial? Eh bien, une suggestion que c'est effectivement un effet spatial, une sorte d'effet d'inertie vers la droite ou vers la gauche de cette ligne numérique mentale, vient du fait qu'on observe également un biais dans les réponses spatiales des sujets. Donc, je vous rappelle, dans la tâche, le sujet choisit l'un des sept ensembles qui lui proposait ici. Et bien entendu, on s'arrange pour que la bonne réponse ou la meilleure réponse possible soit répartie aléatoirement et apparaisse à chacune des sept positions possibles ici. Néanmoins, lorsqu'on regarde la réponse que le sujet choisit de façon préférentielle, eh bien on s'aperçoit que la réponse spatiale est biaisée par le type d'opération qui est réalisée par le sujet. Donc si le sujet est en train de faire une addition, eh bien toute chose égale par ailleurs, il va choisir plus souvent une position à droite et en fait en haut à droite ici de l'écran de réponse. Et si le sujet est en train de faire une soustraction, il choisit plus souvent une réponse qui est située en haut à gauche de l'écran. Donc, réaliser une addition nous entraîne vers les grands nombres, trop loin quelque part sur le continuum des nombres, et nous entraîne également vers la partie droite de l'espace. Réaliser une soustraction nous entraîne vers les petits nombres et nous entraîne également vers la gauche de l'espace. Alors, nous sommes en train évidemment de tester les systèmes cérébraux qui sont responsables de cet effet dans le domaine du calcul mental. Je vous montre simplement les travaux en cours d'Ed Hubbard, qui seront continués par André Knopf au laboratoire, qui nous montrent qu'effectivement, pendant que nous faisons un calcul mental, non seulement nous avons des activations très fortes dans les régions du sillon intrapariétal, qui sont représentées en rouge sur la diapositive, mais il y a un recouvrement partiel de ces activations avec d'autres régions qui sont impliquées dans les mouvements des yeux ou dans le codage de l'espace. Donc lorsque vous bougez les yeux, ce sont les régions en bleu qui sont activées ici, vous avez en particulier cette région qui pourrait être l'homologue de la région LIP, et lorsque vous faites des additions ou des soustractions, vous avez un recouvrement très fort des activations dans cette région. De la même manière, les régions en vert sont des régions qui sont impliquées dans la perception des mouvements multisensoriels, qu'il s'agisse de mouvements tactiles vers le visage du sujet ou de mouvements dans l'espace qui se rapprochent du sujet. Jean-René Duhamel à Lyon a bien caractérisé cette aire VIP qui s'intéresse, parmi d'autres choses probablement, aux stimuli qui s'approchent de l'animal qui vont peut-être entrer en collision avec nous. Évidemment, c'est très important pour la survie d'avoir un système de détection des collisions, et une hypothèse sur ce que fait la région VIP, c'est peut-être cette capacité de détecter la trajectoire spatiale des objets et de voir s'ils vont ou non nous toucher. En tout cas, les neurones de VIP ont des champs récepteurs qui s'intéressent à la fois au toucher sur le visage et à la direction d'un mouvement qui serait dirigé vers le sujet. Eh bien, chez l'homme aussi, on trouve des activations qui s'intéressent à ces deux types de stimuli tactiles ou visuels en mouvement. Ces activations caractérisent une région qui ressemble à l'aire VIP chez l'homme. Il y a un recouvrement très fort de ces activations avec les régions qui s'intéressent au calcul. Et je voudrais mentionner une troisième région. Les saccades visuelles activent une région qui s'appelle les frontolifils, les champs frontaux oculogires dans le cortex frontal. Et que cette région-là est peut-être celle dans laquelle il y a le plus grand recouvrement entre les activations évoquées par le calcul et les activations évoquées par une tâche spatiale de mouvement des yeux. En particulier, dans cette région, si l'on regarde sujet par sujet, ça n'est pas simplement un recouvrement, mais ce qu'on pourrait appeler la micro-organisation de la carte à une échelle qui est la plus fine possible, qui est de quelques millimètres, eh bien, on retrouve la même carte activée pour les saccades et pour le calcul mental dans cette région. Donc il y a une corrélation très forte des cartes entre elles qui suggère que ce n'est pas simplement un recouvrement par hasard avec peut-être des populations de neurones qui sont dans le même volume cérébral pour des raisons complètement différentes, mais c'est vraiment la coactivation d'un système commun. Dans les dernières minutes de ce cours, je voudrais mentionner deux derniers points. L'existence d'une synesthésie pour les nombres chez certaines personnes, et enfin les modifications du lien entre nombre et espace au cours du développement. Le premier point est peut-être plus anecdotique, mais en même temps il est tout à fait fascinant en psychologie, de voir que si chez la majorité d'entre nous, nous subissons ces associations nombre-espace de façon automatique sans en être conscient, eh bien certaines personnes prétendent avoir une représentation tout à fait consciente, explicite, d'une association entre les nombres et l'espace. Et ce point a été rapporté pour la première fois par Sir Francis Galton dans une série de publications dans Nature en 1880. Vous voyez que c'est très ancien. Il décrivait comment certaines personnes étaient absolument convaincues que les nombres, pour elles, occupent des positions dans l'espace, des positions extrêmement précises, parfois associées à des couleurs, et qui déroulent comme une sorte de ruban de nombres dans l'espace. On voit ici l'une de ces représentations qui a été dessinée par une des personnes qui a servi d'informateur à Galton. Vous voyez que les nombres s'écoulent depuis 1 jusqu'à 100 ici sous forme d'un ruban coloré avec des régions bleues brillantes, d'autres très brillantes. On est vraiment dans le domaine de la synesthésie, c'est-à-dire la création de liens entre différentes dimensions sensorielles, mais il semble que le nombre finalement soit capable d'évoquer des sentiments de position spatiale et de couleur. Alors, il y a plusieurs caractéristiques importantes de ces représentations. Elles forment souvent une courbe continue en fonction du nombre. Très souvent, mais pas toujours, de la gauche vers la droite. On verra des contre-exemples par la suite. Et souvent, comprimées vers les grands nombres. C'est-à-dire que ça évoque évidemment la ligne logarithmique dont je vous ai souvent parlé au fil de ce cours. On voit par exemple dans ce dessin de Galton ici que l'espace occupé par les nombres de 50 à 100 est beaucoup plus petit que l'espace occupé par les nombres de 1 à 50. Et en fait, la région de 1 à 10 elle-même est nettement plus grande, et même de 1 à 5 est encore plus grande. Vous voyez qu'il y a une sorte de compression progressive pour les grands nombres qui rappelle ce qu'on a vu calcul sur la perception des nombres chez n'importe lesquels d'entre nous. Donc on a l'impression que ces caractéristiques évoquent le système de représentation des grandeurs numériques, mais avec cette fois-ci une caractéristique de prise de conscience et de spatialisation directe de l'information pour le sujet, qui est littéralement capable de dessiner ou de pointer dans l'espace vers les positions dont il pense que les nombres les occupent. Alors, Ed Hubbard a proposé que, de la même manière qu'il existe des associations synesthésiques entre les lettres et les couleurs, qui pourraient provenir des associations au niveau du cortex occipito-temporal entre, par exemple, la région V4 qui s'intéresse à la couleur et les régions très proches qui s'intéressent à la forme des symboles des lettres ou des chiffres, eh bien, les associations entre nombre et espace, dans le domaine de la synesthésie, pourraient venir d'un excès de communication, d'un excès de recouvrement dans les régions pariétales qui s'intéressent à ces deux paramètres. Je pense que c'est une hypothèse extrêmement plausible que l'on s'attachera à essayer de démontrer dans les années qui viennent, mais je voudrais aussi souligner qu'il y a dans ce domaine des phénomènes tout à fait mystérieux que nous ne comprenons pas bien, et en particulier c'est la forme tout à fait particulière de ces lignes numériques qui sont extrêmement idiosyncratiques. Vous voyez ici un autre sujet décrit par Galton qui décrit une courbe qui pour lui fait des volutes de 1 jusqu'à 12, puis ensuite jusqu'à 20, 30, voyez, vers la gauche. Donc ici, les grands nombres sont codés vers la gauche de l'espace et non pas vers la droite. Et ce qui est tout à fait frappant lorsqu'on regarde cette littérature, c'est que des personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de ce domaine, qui en fait croient qu'elles sont uniques au monde très souvent, qui n'ont pas conscience que c'est un phénomène rapporté dans la littérature psychologique, eh bien décrivent des synesthésies numériques qui obéissent à des principes d'organisation un petit peu similaires. Donc Calkins, en 1892, avait décrit une autre personne qui avait une sorte de cadran d'horloge de 1 jusqu'à 12, puis ensuite des volutes vers la gauche, assez prononcées. J'ai eu la chance de trouver dans mon entourage une personne qu'on a étudiée ensuite au laboratoire qui décrivait une ligne numérique qui était remarquablement similaire également à celle décrite par Galton, avec une courbe entre 0 et 12, un petit peu ouverte, et puis vous voyez à nouveau peut-être une ligne droite entre 12 et 20, mais ensuite des volutes pour les dizaines successives. Et Manuela Piazza, qui a testé cette personne, qui par ailleurs est une personne tout à fait normale, hein, comme vous et moi, eh bien, a montré que cette personne ne pouvait pas s'empêcher finalement de réfléchir au nombre dans cette représentation spatialisée, et que si l'on violait la convention qui lie pour elle les nombres et l'espace, eh bien, elle subissait un effet d'interférence extrêmement fort. Donc on a pu le montrer, par exemple, en lui demandant de comparer les nombres, décider lequel de deux nombres écrits en notation arabe est le plus grand, et simplement on présentait ces nombres sur une ligne numérique qui rappelait la forme de sa ligne mentale numérique. Vous voyez que les temps de réponse de cette personne sont extraordinairement ralentis par rapport à des sujets contrôle, et particulièrement lorsque la position des nombres qu'on lui présente ne respecte pas les positions attendues sur sa ligne numérique. Donc si on présente le 1 là où devrait être le 16 et le 16 là où devrait être le 1, elle a énormément de mal à dire lequel de 1 et de 16 est le plus grand. Donc pour elle, la représentation spatiale fait partie intégrante de ce qu'est un nombre, et violer cette convention crée une énorme difficulté à se retrouver finalement dans l'espace des nombres. Alors, ce sont des phénomènes qui sont encore extrêmement mal compris, mais je crois que l'hypothèse la plus simple, c'est que finalement, sans en avoir conscience, nous avons tous mentalement ce type d'association. Ce qui est particulier à la synesthésie, c'est l'accès à la conscience sous forme d'une représentation qui devient rapidement extrêmement élaborée et figée dans le temps pour un sujet donné, de cette association entre les nombres et l'espace. Alors, dernier point, pour conclure, je voudrais rappeler que l'association entre nombre et espace ne reste pas identique au cours du développement, et que favoriser cette représentation, cette association des nombres et de l'espace pourrait être une manière de favoriser le développement de l'arithmétique chez l'enfant. Je vous avais montré la semaine dernière cette tâche qui a été étudiée par Siegler et Hopfer, qui consiste tout simplement à demander à des enfants ou des adultes de mettre en relation un nombre avec une position. On leur présente un segment avec une étiquette numérique qui peut être 1 ici à gauche et 100 à droite, et ensuite on leur donne des nombres, et pour chacun de ces nombres, on leur demande où est-ce que vous le placeriez sur cet espace. Par exemple, 50, où est-ce que vous le placez? Bon, Un adulte, typiquement, va placer 50 au milieu de 1 et 200 et va en fait avoir une représentation extrêmement linéaire dans laquelle ces nombres vont être placés à leur place correcte sur une échelle linéaire. Et on voit apparaître cette échelle linéaire assez rapidement au cours du développement, vers le CE1 ou le CE2, suivant la taille des nombres qui sont en jeu. Mais ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir que les jeunes enfants utilisent, eux, une échelle logarithmique pour les nombres. C'est-à-dire que spontanément, lorsqu'ils réalisent cette tâche, ils ne répondent pas du tout au hasard. Il y a un lien étroit entre la taille du nombre et la position de la réponse sur l'écran, mais ils préfèrent placer 10 au milieu de 1 et 200. Et vous voyez que l'ensemble de leurs réponses suit une courbe qui reproduit une échelle logarithmique. Et je vous avais montré très brièvement, je vous remonte cette diapositive, que même des sujets adultes qui n'ont pas un bon accès à l'éducation, qui sont des sujets testés en Amazonie, dans le peuple Munduruku, eh bien, continuent d'avoir cette organisation logarithmique des nombres, même pour les nombres de 1 jusqu'à 10. Nous avons vu tout au fil de ce cours que la représentation spontanée des quantités numériques, particulièrement chez l'animal et chez les jeunes enfants, est une représentation compressive, bien décrite par une échelle logarithmique, dans laquelle les grands nombres ont tendance à être jugés plus proches que les petits nombres, à distance numérique pourtant égale. Cette échelle logarithmique semble dominer le développement au départ, et finalement, l'échelle linéaire qui nous paraît si intuitive chez l'adulte est le résultat d'une acquisition culturelle. C'est probablement le résultat de ce système de mesure dont on a vu au tout départ l'importance dans le développement des mathématiques. Le fait de dire qu'un nombre peut mesurer l'espace, ça conduit à déterminer une unité. Et à partir du moment où il y a une unité, on utilise une échelle linéaire pour appliquer les nombres sur l'espace. On ne sait pas exactement comment cette transition mentale se produit chez l'enfant, mais clairement, elle correspond à une vision assez radicalement différente de la manière dont les nombres s'appliquent à l'espace. C'est un changement important qui se fait, et le travail chez les Indiens d'Amazonie montre en particulier qu'il ne suffit pas de savoir compter. Certaines de ces personnes savent compter en utilisant les mots portugais qui sont utilisés autour d'eux, et néanmoins, ça ne suffit pas à changer leurs réponses, à les rendre strictement linéaires. Elles continuent à avoir des réponses logarithmiques. Donc, il y a une sorte de déclic mental qui reste encore à décrire sur le plan psychologique qui se produit chez l'enfant, qui conduit à un passage d'une règle logarithmique à une règle linéaire de réponse et d'application des nombres sur l'espace. Et je termine par une diapositive qui suggère, à travers plusieurs études, que le fait de renforcer, par le biais, par exemple, de jeux de plateau, ces liens entre les nombres et l'espace peut avoir un effet très positif sur le développement mathématique de l'enfant. Les jeux de plateau, c'est extrêmement simple. C'est par exemple le jeu des petits chevaux dans lequel vous allez jeter un dé et vous allez avancer dans l'espace d'un nombre de cases qui correspond au nombre que vous avez tiré. Et c'est évidemment la simplicité même, c'est un jeu auquel on ne joue en principe que lorsqu'on est un petit enfant, mais vous voyez que ça déploie évidemment ces concepts de nombre et ces concepts d'espace, et en fait on va établir un lien très fort entre les deux par le biais de ces jeux. Alors c'est Sharon Griffin et Robbie Case qui les premiers ont eu l'idée d'exploiter ces correspondances entre nombre et espace au sein d'un curriculum qui était beaucoup plus vaste, système d'aide aux mathématiques chez des enfants à risque parce qu'ils étaient de milieux socio-économiques défavorisés dans la banlieue de Chicago. Et le travail de Sharon Griffin était le premier à montrer que des interventions à l'école, même pas très longues, c'était quelques dizaines d'heures d'intervention chez l'enfant, pouvait propulser les enfants qui étaient tout en bas de la classe ici vers le haut de l'échelle, en fait dépassant des enfants qui commençaient avec une nette avance ici. Vous voyez, donc ici, au fil du temps, je m'excuse, ce n'est pas très lisible, mais c'est à travers deux années successives d'apprentissage des mathématiques, l'effet d'une intervention qu'elle appelle maintenant Number Worlds, qui consiste à renforcer par toutes sortes de jeux ces liens entre les nombres et l'espace et le sens de la ligne numérique mentale. Alors, avec Anna Wilson, nous avions développé un logiciel qui, là encore, cherche à entraîner ces liens entre les nombres et l'espace, dans lesquels on présente des nombres, le sujet doit choisir le plus grand, et ensuite, il utilise le nombre qu'il a choisi pour faire la course avec un adversaire dans l'ordinateur. C'est un logiciel qui est disponible, d'ailleurs, sous le mode open source sur Internet, donc on peut le modifier, et j'espère qu'il va continuer à s'améliorer. Mais on avait montré, et dans un travail également avec Michel Fayol, que l'utilisation de ce logiciel améliore certaines des compétences de l'enfant. Ça n'est pas la panacée, hein, ça améliore de façon assez modeste, mais par exemple les scores dans la subitisation, la comparaison des nombres, l'identification des nombres écrits en chiffres arabes, eh bien, l'utilisation de ce logiciel améliore les performances des enfants à risque de milieux sociaux défavorisés par rapport à l'utilisation d'un logiciel de lecture, par exemple. Dernier travail, très récent, de Ramani et Sigler, qui là encore ont réduit ce concept à sa plus simple expression. Leur jeu est extrêmement simple, c'est une simple ligne numérique étiquetée de 1 jusqu'à 10. L'enfant jette un dé, il doit avancer d'un certain nombre de cases et il va compter donc, pour avancer. Et les enfants vont être en compétition pour essayer d'atteindre le premier, le bout de la ligne. C'est à peine un jeu, c'est un jeu éducatif très simple. Ce qui est intéressant dans le travail de Sigler, c'est qu'il l'a comparé avec un jeu contrôle dans lequel on jette un dé et c'est la couleur qui compte. Donc si on tire la couleur rouge, eh bien, on va avancer jusqu'à la prochaine case de couleur rouge. Donc c'est intéressant parce que c'est un jeu, il y a un but, il y a une interaction sociale, il y a le professeur qui s'intéresse à ses élèves, tous ces facteurs sont bien contrôlés, mais dans un domaine, il y a un contenu numérique et spatial, dans l'autre domaine, il n'y a pas de contenu numérique et il y a un léger contenu spatial. Eh bien, ce que Ramani et Sigler ont montré, c'est que l'entraînement à ce jeu numérique spatial améliore les performances des enfants dans toute une série de tests. Le test nombre-espace lui-même, vous voyez que les performances des enfants après entraînement à ce jeu sont des performances linéaires avec un excellent appariement des nombres et de l'espace d'un point de vue linéaire, mais aussi des tâches comme le comptage, l'identification et peut-être également le calcul mental. Il reste à voir, parce qu'on n'a pas de recul pour l'instant, il reste à voir si ces effets sont durables au fil de l'éducation. Mais je crois qu'il ne fait aucun doute dans l'état actuel des données que l'apprentissage de ces liens entre nombre et espace fait partie des concepts essentiels des mathématiques que l'enfant doit acquérir. Et si on l'aide à l'acquérir de façon précoce, et on le fait dans de nombreuses familles simplement en jouant à ces jeux, mais on devrait peut-être le faire plus à l'école aussi, eh bien on peut aider à cette transformation mentale dans le cerveau de l'enfant. Alors, j'en viens donc à ma conclusion. Je crois que l'association entre nombre et espace est l'un des aspects essentiels de la cognition numérique et je vous ai montré qu'on ne peut pas s'empêcher lorsqu'on pense à un nombre ou lorsqu'on effectue un calcul d'évoquer automatiquement un biais spatial. Cet effet trouve probablement son origine dans les liens qu'entretiennent les représentations numériques et spatiales dans le lobe pariétal, même si la direction et la forme de l'effet, linéaire ou pas, sont influencées par l'éducation et la culture. Donc nous transformons ces représentations, mais l'existence même d'un lien entre nombre et l'espace est probablement à trouver dans l'organisation de notre cerveau. Les mathématiques tirent avantage de ce lien naturel entre nombre et l'espace, et donc il est essentiel de l'entraîner chez l'enfant, cela confère aux enfants une compréhension plus profonde de l'arithmétique. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a le temps peut-être pour 5 minutes de questions. Monsieur.
Votre exposé là sur la représentation des nombres sur une droite ou sur un segment, je pense qu'il y a des problèmes assez difficiles parce que vous avez donné l'exemple de comparer 11 et 19 et prendre le milieu qui était 15. Et si vous aviez posé la question entre 11 et 15, quelle aurait été la réponse possible ?
Bon, ça, c'est de nombreuses questions, là. Le test de bisection est un test approximatif, c'est-à-dire qu'explicitement, on souhaite que le sujet ne fasse pas des calculs. Et donc, ça ne pose aucun problème de poser la question quel est le milieu de 11 et 18, dans la mesure où on demande une réponse approximative au sujet. Au contraire, ça va quelque part favoriser l'émergence d'éventuels biais spatiaux. Et je ne vous ai pas mentionné ce fait, mais chez les personnes normales non émi-négligentes, on n'est pas absolument parfait. En fait, on a un biais vers la partie gauche donc vers les petits nombres. Et ce biais est directement proportionnel au biais qu'on a également dans l'espace, qui a été rapporté depuis longtemps. Donc même chez les personnes normales, sans lésion cérébrale, eh bien, nous sommes biaisés dans ce test également. Alors, pour répondre à votre dernière question sur l'effet des erreurs, bon, je pense que ça serait en soi un cours de parler de la détection des erreurs dans le cerveau, qui est vraiment un très grand sujet d'étude. Michael Posner a montré que la détection des erreurs arithmétiques, y compris chez le jeune enfant, déclenche déjà un système qui est associé au cortex singulaire antérieur et qui semble jouer le rôle générique de système de détection d'erreurs pour toutes sortes de domaines très différents. Donc détecter une erreur arithmétique ou détecter qu'on a appuyé sur le mauvais bouton dans une tâche de temps de réaction solliciterait un système situé dans le cortex singulaire antérieur. On ne sait pas exactement comment ce système fonctionne, mais on voit au moins qu'il y a une sensibilité, si vous voulez, à l'écart entre un plan qui est souhaité par le cerveau et le plan qui est effectivement réalisé dans le comportement à un instant donné. Il semble que le cerveau mesure l'écart entre son plan et sa réalisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, oui, madame ?
Vous avez parlé de personnes particulières qui avaient une vision spatiale de l'ombre par un vivant. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait une relation entre, pour l'une, le cadran du monde et pour une autre qui parlait des couleurs avec l'ordre des couleurs dans le spectre.
Oui. Oui, alors, c'est fait partie des questions classiques. Il y a tout un questionnaire sur la synesthésie. Hein. Et effectivement, lorsqu'on pose la question de l'origine de ces associations nombre-espace, la plupart des gens disent qu'elles les ont depuis toujours. Elles ne se souviennent pas vraiment à quel moment ça a commencé, mais très souvent, elles sont capables de dire que c'était très tôt, vers 3 ans, vers 4 ans, qu'elles ont commencé à prendre conscience que les nombres avaient des couleurs ou que les nombres avaient des positions dans l'espace. Alors, vous avez tout à fait raison. L'horloge semble jouer un rôle important, au moins chez certaines personnes. Chez d'autres personnes, on ne voit pas du tout ces courbes, on voit beaucoup plus des segments de droite. Et parfois, ces segments de droite sont organisés sous forme d'une espèce de matrice spatiale, en particulier pour les nombres entre 10 et 100. Donc, il y a probablement différentes formes. Je vous ai présenté surtout les formes curvilignes, mais ces formes sont en fait extraordinairement variées. Et il y a une très grande variété de synesthésie numérique. C'est une question de recherche de savoir si ça se traduit en fait par des interactions cérébrales de nature un petit peu différente. On peut imaginer par exemple que les formes curvilignes soient associées à une représentation peut-être plus dans l'hémisphère droit que dans l'hémisphère gauche. Bon, ça reste totalement à déterminer. En tout cas, certainement, l'exposition à des systèmes culturels intervient et affecte ces représentations. Mais en même temps, on pense qu'il y a un aspect génétique chez ces personnes. Il semble que ça suive des règles de distribution familiale, la synesthésie en général, que ce soit la synesthésie graphème couleur ou la synesthésie nombre-espace. Et probablement, c'est une interaction entre un système biologique qui peut-être crée des interactions trop fortes entre cartes dans le cerveau ou une moins bonne élimination synaptique, c'est l'hypothèse qui a été proposée par Ramachandran et Hubbard, donc qui ferait que les cartes ne se séparent pas maximalement comme elles devraient le faire au cours du développement. Et évidemment, un système culturel dans lequel l'enfant est plongé qui fait que certaines associations préférentielles vont se produire. Je crois que c'est le cas chez chacun d'entre nous, puisque les petits nombres vers la gauche et les grands nombres vers la droite, c'est un effet culturel de direction de l'écriture. Mais dans le cas de la synesthésie, il semble que d'autres systèmes culturels, comme l'horloge, vont vraiment s'imprimer très profondément dans cette carte nombre-espace. Une dernière question, peut-être ? Oui, monsieur ?
Oui, dans le biais subtraction addition, en fait, il y a trois éléments qui sont intermédiés par le sujet observé. Il y a les nombres eux-mêmes et l'opérant.
Absolument. Vous voulez dire le signe d'opération, hein.
Oui, le signe d'opération.
Oui. Bon, c'est une expérience qui est en cours, donc effectivement, c'est la première fois qu'on sépare très nettement une étape où on donne l'opération à réaliser au sujet et ensuite les opérantes successives. Donc, a priori, on devrait être capable, au moins avec certaines techniques, les potentiels évoqués ou la magnétoencéphalographie, de suivre ce qui se produit dans le cerveau à chacune de ces étapes. Et ce n'est pas impossible d'imaginer qu'il y ait une forme de planification de l'opération qui puisse être séparée de sa réalisation effective au moment où on a les opérants. Je ne sais pas si on arrivera à faire cette analyse qui est quand même extraordinairement fine. Je ne sais pas si les outils actuels nous permettront de faire cette analyse, mais on va certainement essayer. Oui. Je crois qu'on va s'arrêter là pour faire une pause d'une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Je vous rappelle que nous avons ensuite un exposé d'Elisabeth Spelke, qui est venue spécialement de Harvard. C'est un très grand honneur que nous avons aujourd'hui de l'écouter. Et je voudrais mentionner aussi que je mets à votre disposition un certain nombre de cartons d'invitation pour diffuser l'information sur une conférence invitée qui aura lieu à la fin du mois de mai, au début du mois de juin, par Carl Friston, de l'Institut des sciences cognitives de Londres, qui nous parlera de modèles théoriques de l'organisation du cerveau, des modèles bayésiens de l'organisation du cerveau. Ce sont des conférences un petit peu mathématiques, mais à mon avis extrêmement intéressantes. Et donc, vous pouvez prendre ce carton pour être invité. Bien entendu, l'accès est libre, mais le carton vous rappellera les dates et les horaires exacts. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.